Bonjour à tous. Merci Marion d'avoir introduit ce culte en mettant en présence, en nous mettant face à Dieu trinitaire, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Merci pour ta prière aussi. Et effectivement, ce jour, nous célébrons le don du Saint-Esprit aux disciples rassemblés à Jérusalem après la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement, nous dit le texte, arriva le jour de la Pentecôte. C'était une fête juive qui a lieu 50 jours après la Pâque. Le mot Pentecôte, d'ailleurs, signifie 50. La fête juive de Pentecôte était la fête de la moisson, au cours de laquelle le peuple se réjouissait et rendait grâce à Dieu pour les récoltes. Mais elle commémore aussi le don de la loi au Sinaï. Je crois que nous ne mesurons pas suffisamment l'importance de ces fêtes, l'importance capitale de tous ces événements qui se sont produits au 1er siècle. Dans cette petite région du monde qu'est Israël, les quatre fêtes chrétiennes que sont Noël, Pâques, l'Ascension et Pentecôte, nous lisons ces textes tous les ans, nous prêchons là-dessus, nous entendons des prédications, des commentaires. Nous profitons des jours fériés aussi, mais on ne mesure pas l'impact extraordinaire de ces événements sur le monde. La Pentecôte, comme ces autres fêtes, bien que localisée dans l'histoire du monde, a comme les autres fêtes ce caractère cosmique, universel, intemporel. À Noël, Dieu est venu s'incarner dans Jésus le Fils. Il est venu s'incarner dans notre monde physique. Et à la Pentecôte, Dieu vient par le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, vient dans le cœur des croyants et dans son corps spirituel qu'est l'Église. Mais au fond, le christianisme a démarré à la Pentecôte. Parce qu'au fond, les disciples étaient là, et on va le revoir, étaient après la mort de Christ, ils avaient bien revu le Christ, mais ils n'avaient pas la force, le courage de témoigner. Cette force, ce courage sont arrivés à la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. Alors je vous propose de revenir à ces événements qui ont donné naissance à l'Église et qui ont influencé le monde de telle sorte qu'un tiers de l'humanité se réclame du Christ et que les valeurs chrétiennes restent une référence pour beaucoup. L'histoire. À la fin du règne de l'empereur Tibère, sous le gouvernement de celui qu'on connaît bien, Ponce Pilate, un groupe de disciples du Nazaréen nommé Jésus se cache. En se racontant les événements qui se sont produits ces dernières années, ils sont un peu rassurés après la mort de leur maître 2 mois plus tôt. En effet, ils l'ont revu vivant, bien que de façon un peu spéciale, car il leur est apparu à certains égards comme un revenant. Mais ils l'ont vu jusqu'à 11 fois, pas forcément tous ensemble, mais pendant cette période jusqu'à ce jour, ils ont eu l'occasion de le voir. Et puis, il les a emmenés au Mont des Oliviers. Là, il les a bénis une dernière fois, puis il est monté au ciel et a disparu. Alors oui, depuis ce jour, ils ont eu le temps de se souvenir de tout ce qu'ils avaient vécu avec lui. Oh, ils ont pu se raconter des choses les uns aux autres. Les miracles, les discours, les paraboles, la fatigue du chemin, l'opposition des chefs religieux, l'accueil de Zachée, de Simon. Mais pendant toute cette période, ils sont aussi en train de relire la loi et les prophètes. Après le cours magistral que le maître lui-même a donné à Cléopas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont aussi tout le loisir de se raconter ce fameux discours où Jésus leur avait parlé de l'Esprit que Dieu leur enverrait après son départ. Ce consolateur, cet avocat, dont nous avons lu une partie du discours de Jésus, a été annoncé par Jésus et ils devaient les équiper pour mieux servir Dieu. Jésus leur avait même dit qu'il leur était avantageux qu'ils s'en aillent et que le Saint-Esprit le remplace. Ce fameux jour où il les a quittés, il leur a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous accorde le don du Saint-Esprit. » Merci Maître Lallier, très bien. Alors donc, ce jour de la Pentecôte, les disciples sont donc rassemblés en un même lieu, dit le texte. Il est vrai qu'on les voit volontiers dans la chambre haute, mais le texte ne le dit pas précisément. Il dit juste qu'ils étaient rassemblés en un même lieu. Alors, qui était rassemblé en un même lieu? Là aussi, les choses ne sont pas dites de façon claire. Il y a les 11 disciples, il y a sans doute Matthias, qui est le 12e, qui a été choisi. Il y a la mère de Jésus, les frères de Jésus et quelques femmes qui sont mentionnées juste avant. Mais juste avant, il est aussi question de 120 personnes rassemblées. Donc, il est sans doute difficile de savoir précisément qui était là ce jour-là. Toujours est-il que ce jour-là, un grand bruit, comme un vent violent, s'abat sur la maison où ils étaient assis, la remplit de flammèches qui se séparent et se posent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en diverses langues. Dans tout Jérusalem, on entend ce bruit, on accourt, un attroupement se forme. Essayons d'imaginer un peu la scène. Tous les disciples se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Les gens accourent, pourquoi? À cause d'un bruit. Alors je me suis posé la question de savoir si un coup de vent amènerait les gens à un endroit particulier. C'est difficile à imaginer parce qu'au fond, c'est pas très localisé un coup de vent. Alors je me suis dit, mais ça a plutôt été quelque chose comme une explosion à un endroit particulier. Là oui, s'il y a une explosion, les gens ils savent d'où vient le bruit, mais le vent ne sait pas d'où vient le bruit. C'est un peu compliqué. Mais on remarque dans le discours de Luc ces comparaisons, parce que c'est difficile de décrire ce qui s'est passé précisément. De la même façon qu'il dit des langues comme des langues de feu, il dit aussi un bruit comme un bruit de vent, d'un coup de vent. Donc c'est difficile de savoir comment les gens l'ont vécu. Mais les gens ont entendu quelque chose, il se passe quelque chose dans Jérusalem et ils y vont. Alors ça a pu prendre un petit peu de temps, si on réfléchit à ce qui s'est passé, parce qu'au fond, Jérusalem, certes, n'est pas une grande ville comme les villes de nos jours, mais quand même, il faut un petit peu de temps pour se déplacer, j'imagine, d'un endroit à l'autre, que tout le monde se rassemble. Alors peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on voit des gens courir, et puis alors les gens se disent, ben, on va les suivre, etc. Et puis les gens se rassemblent. Et quand la foule est nombreuse, Pierre prend la parole. Alors je voudrais rajouter quelques remarques sur ce texte. Et tout d'abord, ce détail-là, l'heure. Parce que même si, à certains égards, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, il y a des comme, un vent violent, et puis comme des flammes de feu, mais il y a 9h du matin. Alors, 9h du matin, ou la troisième heure, je crois, mais 9h du matin pour nous. Et c'est vrai que c'est étonnant, parce que ce détail, au fond, ça sent bon le témoin véridique, enfin le témoin qui a vu les choses, qui a entendu, qui était présent. Pourquoi 9h du matin? Mais on ne le dirait pas forcément si on racontait un événement. Oui, mais là, c'est 9h du matin. C'est quelque chose de précis. Ça s'est passé à un endroit précis et ça s'est passé à une heure précise. Alors, d'ailleurs, c'est 9h du matin, ce n'est pas écrit ici, hein, c'est un petit peu plus loin. Quand Pierre dit dans son discours, « Mais non, les gens ne sont pas ivres, il n'est que 9h du matin. On n'est pas ivres à 9h du matin. » Et puis alors, je me suis demandé, ben, au fond, pourquoi 9h? Ben, c'est-à-dire que le bruit, il avait eu lieu avant, sans doute. Voilà. Bon, Pierre, quand il parle, il dit 9h du matin. Donc ça, au fond, ça a eu lieu très tôt, mais c'était peut-être une bonne idée, parce que les gens étaient encore chez eux. Voilà, il n'y avait peut-être pas encore le bruit de la ville. Ils venaient de se réveiller. Alors, évidemment, on se lève tôt. Hein, c'est le jour se lève tôt dans les pays du Moyen-Orient, et puis ils se couchent plus tôt aussi. Donc 9h du matin, enfin 7h du matin, les gens sont sans doute levés. Mais ils sont aussi en éveil. Voilà, ils écoutent. Ah, il se passe quelque chose. Ils ne sont pas encore au travail, ils ne sont pas encore sur le marché. Ils peuvent venir, ils peuvent se précipiter. Mais là, je brode peut-être un peu. Hein. Alors, deuxième chose importante, la deuxième diapo sur les régions d'où viennent ces personnes-là. Alors là, évidemment, quand on fait la lecture, c'est un petit peu long. Parthe, Élamite, Perse, etc. Cyrène, le pont, la Phrygie. Alors, en plus, on ne connaît pas ces régions. Donc, pour nous, ça ne nous parle pas tellement. Elle n'est pas terrible, cette carte, je suis désolé. Je l'ai prise dans le dernier numéro de La Vie, du journal La Vie. On est censé voir l'Empire romain, bien sûr, et puis enfin, toutes ces régions qui sont mentionnées, il y en a 15. Il y a 15 régions et peuples mentionnés. Mais si on regarde la carte, on s'aperçoit que ça recouvre, au fond, tout le monde méditerranéen, l'Empire romain, et même au-delà, vers l'Est. C'est assez frappant. Et puis cette énumération un peu fastidieuse de tous ces lieux, ça doit nous dire quelque chose, bien sûr. Au fond, c'est comme si ce message devenait universel, bien sûr. Nous sommes dans un petit pays en Israël, il s'est produit des choses là, des choses extraordinaires, mais les gens au-delà ne le savent pas encore. Et ces choses qui se sont produites là vont pouvoir se répercuter dans l'ensemble du monde de l'époque. Il y a ici à Jérusalem, et grâce à cette fête, un échantillon représentatif de l'ensemble du monde romain, de l'ensemble du monde de cette époque-là. Alors même si le jour de la Pentecôte, ceux qui reçoivent ce message sont des Juifs ou des Juifs convertis, c'est quand même des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, donc des Juifs de naissance ou des Juifs parce qu'ils s'étaient convertis, mais ce sont des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, autre remarque, le discours dans la langue maternelle. Toutes ces personnes qui entendent le discours dans leur propre langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire pas mal de choses. Et je me souviens d'une prédication de notre frère Jacques Nicole, qui est présent aussi aujourd'hui, je le salue, ainsi que son épouse. Je crois qu'il y a 3 ans, tu as prêché le jour de la Pentecôte ici, en 2013. Et tu as donné une idée qui m'a paru vraiment très intéressante. C'était l'idée qu'au fond, pourquoi est-ce que chacun entend la parole dans sa propre langue? Ben, c'est peut-être pour dire qu'il n'y a pas de langue sacrée. Alors, il faut que je précise un petit peu ce que tu disais, mais peut-être que je me trompe, tu pourras corriger. Hein. C'est l'idée qu'au fond, Pierre aurait pu parler une langue que tout le monde comprenne à peu près. Ben, le grec. Le grec, c'était quand même la langue de communication dans le monde romain. Et les gens auraient pu la comprendre, semble-t-il. Donc, bon, pourquoi est-ce qu'il a fallu ce miracle? Que traduit ce miracle, plusieurs choses bien sûr, mais entre autres peut-être l'idée que chacun peut entendre la parole dans sa propre langue et que le Saint-Esprit, au fond, il parle la langue maternelle de chacun. Il ne faut pas accéder à une langue particulière et effectivement, on peut penser au latin qui a été pendant longtemps la langue de l'Église, hein, l'Église. Et on se souvient aussi des troubles et des difficultés quand l'Église catholique a abandonné la messe en latin, avec les traditionnalistes catholiques qui se sont insurgés, qui ont menacé de rompre avec Rome, parce que le latin était justement cette langue religieuse, cette langue sacrée, qui permettait de communiquer pratiquement avec Dieu. Non, il n'y a pas de langue sacrée, et le Saint-Esprit se met au niveau de chacun, il se met à notre niveau, et il parle notre langue. Et là, évidemment, chacun l'entend dans sa propre langue. Et s'ils ont eu le cœur vivement touché, c'est certainement parce qu'ils l'ont entendu dans leur propre langue. Ça aussi, ça comptait. Ils sont là, et puis ils se retournent, et puis ils entendent parler leur propre langue. C'est ce miracle de Dieu qui est un miracle extraordinaire et qui nous renseigne sur la façon dont Dieu nous parle. Ce miracle dit quelque chose de très fort sur la façon dont Dieu parle à toute notre personne. Il se fait entendre dans ce que nous avons de plus personnel. Alors, je voudrais répondre à, à deux questions, ou tenter, pardon, de répondre à deux questions que je me suis posées en préparant ce message. Tout d'abord, comment le Saint-Esprit a agi à la Pentecôte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le Saint-Esprit a agi dans les apôtres, dans les disciples qui étaient présents ? Alors évidemment, c'est une expérience forte. Il a agi d'une façon spectaculaire. Les disciples ont été dans un état différent de l'habitude. Ils ont brusquement acquis de l'assurance pour parler en public de tout ce qu'ils ont vécu, alors qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire avant. Et puis, ils le font dans des langues qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est exactement ce que Jésus avait annoncé dans son discours, Jean 14 et Jean 16. D'abord, l'Esprit leur a donné l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et puis maintenant, l'Esprit les rend capables de parler de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont vécu. Jésus leur avait dit dans son discours, « À votre tour, vous serez mes témoins » dans Jean 15. Et avant de monter au ciel, juste avant, chapitre 1 des Actes, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce qu'ils vivent à ce moment-là. S'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, au bout d'un certain temps, ils seraient peut-être retournés à leur profession, comme ils l'ont fait peu après la mort de Jésus. Ils se seraient sans doute lassés. Il fallait un événement exceptionnel qui les mette en route, qui marque le début de leur mission. Au fond, ils vivent ce qui est dit un peu plus loin dans l'Épître à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit leur a donné la force de parler, la sagesse de convaincre leurs auditeurs, et puis l'amour pour aller jusqu'au bout de la terre. Alors, des expériences spectaculaires comme celle-ci ont pu se produire plus tard dans l'Église primitive. On en a mention dans le livre des Actes, par exemple, ou plus tard dans l'histoire de l'Église. Mais on doit admettre, je pense, que l'expérience des disciples à ce moment-là est une expérience unique, en ce sens qu'elle inaugure une nouvelle ère. Elle inaugure la mission du Saint-Esprit. Elle inaugure le temps de l'Église. Et cette période va être marquée par le fait que Dieu vient habiter dans le croyant de façon plus concrète et plus permanente. Notre corps, dit l'apôtre Paul, est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais cette réalité était aussi annoncée par les prophètes. On va peut-être regarder dans Ézéchiel, la diapositive suivante, merci. Dans Ézéchiel, ce passage bien connu où il est question justement d'une nouvelle alliance. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oui, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit ont agi de tout temps. Leur action est manifeste dans tout l'Ancien Testament. La mission de Dieu le Fils sur terre, Jésus-Christ, a duré une trentaine d'années. Pendant 3 ans, nous avons des récits sur la façon dont Jésus a vécu, a parlé, a agi. À la Pentecôte, c'est la mission de Dieu, le Saint-Esprit, qui commence et dure encore aujourd'hui. Alors, dernière question. Comment le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église ? Comment se manifeste-t-il en nous maintenant? Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres comment l'Esprit agit dans les croyants. Il les conduit, il parle, il communique une vision, il inspire. Ce n'est pas toujours de façon spectaculaire. Certains chrétiens ont vécu une expérience spectaculaire, comme les disciples, le parler en langue. Certains sont tombés par terre quand on a prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est des choses dont on entend parler. Et au fond, nous aimerions bien, nous aussi, vivre des choses spectaculaires, comme les disciples en ont vécu à la Pentecôte. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le résultat. Au fond, le but de cette effusion du Saint-Esprit, c'était de constituer la première communauté. Et grâce à cet événement, 3000 personnes ont constitué la première communauté, nous dit le texte du loin. Lorsque j'étais étudiant à Poitiers, alors ça fait bien longtemps, je la raconte pas souvent cette histoire, vous ne devez pas la connaître, bon, c'était il y a très longtemps. J'étais étudiant à Poitiers, et effectivement, j'étais déjà croyant, j'étais déjà né de nouveau, comme on dit, hein, et je participais au groupe biblique universitaire de mon université, et je fréquentais aussi une église dite charismatique. Alors j'étais entouré de personnes qui parlaient en langue, et puis, j'avais un petit peu envie de parler en langue, moi aussi quand même, hein, parce que c'est un peu spectaculaire, donc on aime bien, hein, enfin, on aimerait bien. Alors, j'ai assisté à une convention, une réunion sous tente, sous chapiteau, hein, comme on en faisait beaucoup à l'époque, hein, et ça s'appelait aussi d'ailleurs une mission. Et puis, je me suis avancé, comme d'autres personnes, voilà, pour compris pour moi, pour m'imposer les mains, pour qu'on m'impose les mains. Alors, on l'a fait, ça a été un grand moment pour moi, mais je n'ai pas parlé en langue. Ah, j'étais un peu déçu quand même. Bon, ça, c'est pour vous dire qu'au fond, oui, on recherche un petit peu ces choses-là, et certains parlent en langue, et c'est magnifique pour eux, très bien. Bon, moi, non, ça ne m'a pas été accordé, on va dire. Bon, mais j'ai vécu cette période de façon très intense, avec le Seigneur et de façon spirituelle. Au fond, j'étais parti à Poitiers pour témoigner du Christ. J'étais à Strasbourg et il y avait eu un appel. Au fond, il faudrait démarrer des GBU ailleurs en France. Donc, j'étais parti pour ça. Avec un copain alsacien. Voilà, on était deux Alsaciens. Première réunion, on était des Alsaciens, des Anglais, des Allemands, Afrique du Sud. Enfin, il y avait que des étrangers, quoi. Même nous, Alsaciens, on était étrangers. Bon, enfin, il y avait quand même, si, je me souviens maintenant, il y avait deux filles des Deux-Sèvres, quand même, voilà. Une catho, une protestante, réformée, voilà. Mais au bout de peu de temps, on avait quatre groupes d'études bibliques dans les quatre campus universitaires. Et puis, on a fait des week-ends, on a fait des camps, on a participé à des congrès du GBU. Enfin, c'était intense. Et le témoignage s'est répandu à la fac de Poitiers. Alors, je n'avais pas reçu cette expérience extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. Et grâce à Dieu, nous pouvons être des témoins par le Saint-Esprit qu'il met dans notre cœur. Nous savons comment le Saint-Esprit agit. Nous savons comment il agit dans notre cœur. Il faut y réfléchir un petit peu parce que parfois on l'oublie. Alors rapidement, je mentionne quelques actions du Saint-Esprit en nous. Et puis il faudra rajouter bien sûr beaucoup d'autres. Chacun pourra rajouter d'autres choses derrière. Il nous rend conscients de nos fautes et il nous pousse à les confesser. Ça, c'est l'Esprit qui le fait dans notre cœur. Quand nous sommes découragés, il nous relève. Il nous pousse à ne pas renoncer à un projet qui nous tient à cœur, mais qui a du mal à aboutir. Il nous rappelle tel verset ou tel chant dans une journée, dans la journée de travail, quand on va au travail, quand on revient, quand on est fatigué, quand on est découragé. Il nous remplit de joie quand nous sommes émerveillés par sa création ou lorsque nous chantons et louons Dieu ensemble. Il nous donne la sagesse de répondre de façon appropriée à quelqu'un qui nous énerve. Il me casse les pieds, celui-là. Comment est-ce que je vais réussir à lui répondre tranquillement? On n'y arrive pas toujours, mais le Saint-Esprit nous aide là. Et puis, il nous donne l'assurance quand on est en situation de responsabilité. Ça, c'est important aussi. Comme il l'a fait pour les disciples qui ont eu l'assurance de parler alors qu'ils étaient timides. Oui, l'Esprit agit dans notre vie ordinaire si on lui laisse la place. Et c'est ce à quoi il nous invite. Comme disent les Épîtres, « Marchez selon l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. » Oui, l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Sachons reconnaître l'action de Dieu dans notre cœur. Et rendons-nous disponibles pour qu'il puisse nous utiliser comme il a utilisé les apôtres il y a bien longtemps. Amen.